Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poirette.
Qui sont les polémistes de ce vendredi soir au micro de RTL? Eh bien, tout simplement, trois journalistes mâles et éprouvés. Il y a Yvan Levaille. Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a Antonin André, que je ne connais pas. Ravi de vous rencontrer,
ravi
Antonin.
Aussi.
Bonsoir. Plus Guillaume Perrault, qui est grand reporter au Figaro. Salut Guillaume.
Bonsoir Bernard.
Plus Romain Reiner, qui s'occupe à RTL
bonsoir.
Ici. Bonsoir Romain. Des réseaux sociaux et de ce qu'ils disent de l'actualité. Assurément, la grosse actualité du jour, c'est le fait qu'à 15h30, le Parlement indépendantiste de Barcelone a décidé de déclarer l'indépendance de la Catalogne. Voilà, bon, alors on s'en doutait un petit peu, ça a traîné pendant tout le mois. Il y a eu 1000 péripéties, finalement ils l'ont fait. Aussitôt, Madrid a répliqué en appliquant le 155 de la Constitution, mais on va en parler. La question que je posais est la suivante. Est-ce que le Parlement de Barcelone a réalisé là une folie très calculée, très réfléchie? Qu'en pensent les internautes?
Bien, c'est peut-être une folie très réfléchie, comme vous dites, mais une grande partie des internautes la voit uniquement comme une folie. Marius dit non à l'indépendance de la Catalogne et à cette balkanisation de l'Europe. Oui à une Espagne forte et unie. Flo se demande au nom de qui le Parlement a déclaré son indépendance. La moitié des élus n'a pas voté pour, dit-il. Chris craint que tout cela finisse en eau de boudin et selon Alberto, l'Espagne n'avait pas besoin de ça. Paola évoque, elle, une honte pour les Catalans qui nous imposent quelque chose que nous ne souhaitons pas. Elle ajoute, c'est un coup d'État. Pour Zach, en revanche, c'est la victoire de la Catalogne libre. Et Jérôme va plus loin. Pour lui, la Catalogne doit fuir l'Union européenne. Inutile, dit-il, de quitter le joug espagnol si c'est pour tomber sous celui de l'UE, bien pire, car dirigé par des lobbies.
En tout cas, le délégué général de la Catalogne en France, qui était l'invité d'RTL soir à 18h20, nous a très clairement dit que il n'était pas question de quitter l'Union européenne, à supposer que leur indépendance puisse perdurer, ce qui n'est absolument pas gagné, bien évidemment. Guillaume Perrault, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est du délire bien pensé, ou du délire tout court, ou une erreur historique? Comment vous percevez ce truc-là, sidérant? Il y a un mois et demi, on n'en parlait pas, en dehors de la Catalogne, en tout cas. Voilà, ils sont indépendants.
Les Catalans eux-mêmes sont stupéfaits de ce qui s'est passé. En tout cas, ceux qui appartiennent
la moitié
hostile à l'indépendance sont stupéfaits par l'accélération qui s'est produite depuis le mois d'août. Une évidence pour commencer, je ne vois pas comment cette indépendance peut être effective. Ça me paraît totalement exclu, totalement impossible. Non seulement pour des raisons constitutionnelles et juridiques, mais aussi parce que, à partir du moment où la société civile catalane elle-même est très fracturée, à partir du moment où vous avez grosso modo un Catalan sur deux qui a voté contre les partis indépendantistes aux dernières élections de la Généralité, pour l'élection des élus de la communauté autonome, à partir du moment où les Catalans favorables au maintien dans l'Espagne jugent scandaleux l'attitude de leur gouvernement régional, il n'y a pas de consensus suffisant au sein même de la Catalogne pour soutenir une démarche qui, en plus, est illégale.
Au départ, c'est illégal, oui, effectivement.
Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Le référendum du 1er octobre.
Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour se poser en victime.
Oui.
Pour gagner la bataille des images qui va s'engager, pour faire un amalgame, si scandaleux qu'il soit, entre le gouvernement de Madrid et les souvenirs de Franco. C'est ce qui scande les plus exaltés dans les rues de Barcelone aujourd'hui. Il va y avoir des scènes de résistance passive des plus déterminées qui vont faire une chaîne humaine autour des bâtiments publics.
Oui.
On va avoir des images un peu pénibles avec les forces de l'ordre envoyées par Madrid
qui vont devoir remplacer les policiers catalans.
On a eu déjà des images assez pénibles il y a quelques semaines qui ont entraîné une levée de boucliers contre le gouvernement de Madrid quand Rajoy a envoyé les forces de l'ordre nationales pour stopper le référendum qu'il jugeait illégal à juste titre. Donc, voilà, c'est cette bataille des images qui va et cette espèce de résistance passive que les Catalans favorables à l'indépendance espèrent mener face aux autorités de Madrid, une guerre d'usure où il n'y aura sans doute pas de vainqueur éclatant. En tout cas, à mes yeux, l'indépendance effective de la Catalogne aujourd'hui est tout à fait impossible.
Antonin André, ça me semble dérisoire comme objectif. On déclare pas l'indépendance de la Catalogne juste pour se faire plaindre par l'Union européenne et dire que on est des victimes comme les pauvres Turcs sont des victimes du tyran Erdogan, etc. C'est ce que nous a dit le délégué général de la Catalogne tout à l'heure à 18h20.
Sans doute pas, mais il y a quand même dans cette affaire, on le voit au fil des semaines, aujourd'hui, deux camps qui n'arrivent plus à se parler.
Ils se parlent plus.
Et avec une radicalisation quand même d'une partie des indépendants indépendantiste pur et dur en Catalogne, qui parie sur l'exaltation de la rue, où effectivement on va quand même assister à des scènes, Guillaume le soulignait, où on va voir les plus radicaux d'entre eux essayer d'opposer une résistance, de montrer qu'ils sont en résistance. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant dans cette histoire catalane qui interroge toute l'Europe finalement. C'est-à-dire que l'Union européenne est quand même la grande absente, est quand même celle qui regarde totalement ailleurs et qui ne veut surtout pas s'en mêler, alors même qu'on aurait pu imaginer une médiation européenne ou d'un pays de l'Union européenne ou de la Commission européenne.
Mais il
n'y
a pas à faire de le médiateur, puisque
Quand les deux parties ne se parlent plus, si vous voulez. Oui, ils font un truc illégal, mais si vous voulez, il y a quand même une réalité qui est que vous avez aujourd'hui...
des millions de gens qui veulent se séparer de l'Espagne.
Et donc, il y a un état de fait, une exaltation de la rue d'un côté et une radicalisation de l'autre aussi, qui consiste à ne pas céder. Et on ne voit pas comment ces deux parties peuvent s'entendre. Or, il y a un moment où effectivement... il va quand même y avoir des problèmes de régulation économique, des problèmes de régulation de l'autorité, des problèmes d'exaltation de la rue. Et quand on prend un peu de chance, c'est assez inquiétant parce que ça va à rebours de ce que l'Union européenne a prôné et a construit. Et cette histoire catalane rappelle aussi qu'il y a un certain nombre de replis nationalistes et de replis régionalistes qui fleurissent un peu partout en Europe, pas seulement en Espagne.
En Belgique,
les Flandres, l'Écosse dans le Royaume-Uni, la Vénétie en Italie, la Corse en son temps en France. Et ce mouvement-là est très inquiétant, je trouve, et la passivité de l'Union européenne et la passivité aussi des gouvernements et des poids lourds européens que sont la France, l'Allemagne et autres, est assez inquiétante et coupable, je trouve, dans une situation dont on ne voit pas bien quelle sera l'issue, si ce n'est qu'il y a quand même des risques que ça puisse dégénérer.
Enfin, moi, il m'a semblé quand même que c'était assez clair. Pour le moment, on se contente de dire Rajoy est le seul interlocuteur légal et c'est le seul qu'on ait, et on ne parle qu'à lui. Maintenant qu'ils sont indépendants et que là, on est au-delà de la discussion entre Madrid et Barcelone, il n'y a plus rien à discuter, peut-être ça va changer. On va voir. Que pense de tout ça Yvan Levaille? Je lui pose la question dans un instant, Yvan, car vous n'êtes pas prioritaire. D'abord, le Grand Capital. 19h27.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poirette.
Avec Guillaume Perrault, Antonin André et donc Yvan Levaille, à qui je donne la parole sur cette affaire catalane. Vous aviez l'air extrêmement abattu en entrant dans le studio suite à ce qui s'est passé cet après-midi à Barcelone. Expliquez-nous, comment vous voyez la chose, Yvan?
Bah écoutez, d'abord, je suis en désaccord avec mon confrère. Moi, je suis plutôt content que l'Europe, les gouvernements européens ne se soient pas exprimés franchement, publiquement. Vous savez, Léon Blum a beaucoup souffert d'avoir choisi la non-intervention en Espagne au moment de la guerre civile.
Oui.
Dieu sait si ça lui a été reproché. Ce que je crois, c'est que la diplomatie souterraine, officieuse, a fonctionné. Vous n'imaginez quand même pas que Macron, Merkel, etc. et Rajoy ne se sont pas téléphonés depuis le 1er octobre. Dieu sait s'ils l'ont fait. Leurs ambassadeurs l'ont fait. Bon, la diplomatie, elle fonctionne. Mais qu'on intervienne, qu'on soit intervenu avant, parce qu'on était européen, devant tout le monde. Alors je comprends que les journalistes soient impatients et qu'on soit impatients. On n'aime pas les crises qui durent comme ça longtemps. On n'aime pas ça. Donc je vous reproche pas d'avoir cette attitude. Moi, je suis très content qu'on n'ait pas donné l'impression de bouger frénétiquement d'un seul coup. La seconde chose que je voudrais dire, c'est rappeler cette phrase magnifique de John Fitzgerald Kennedy, qui disait que quand les temps sont durs, quand les choses sont dures, ce sont les durs qui avancent.
Oui.
Eh bien, moi, je me suis complètement trompé là-dessus parce que je pensais que le catalan Puigdemont était mou. Pas courageux.
Ou anecdotique.
Non, mais mou des genoux, ouais. Faible, disant, bon, je veux bien ça, mais je le veux pas vraiment. Alors même, on a vu des images où on avait l'impression qu'il embrassait Rajoy. C'est quand même extraordinaire.
Il a l'air un peu perdu, néanmoins.
Et je pensais que Rajoy...
Il a l'air un peu dans la main des plus radicaux et un peu perdu. Oui, hein. Il n'a plus de boussole.
Attendez. Et j'ai pensé aussi de Rajoy qu'il était faiblard, au début, en envoyant les forces de l'ordre et en tapant comme il l'a fait, en croyant que les Catalans allaient se coucher. C'est fier, un Catalan. Hein. On peut
un
pas...
Un Castillan aussi. Même un Galicien.
Mais attendez,
un Galicien aussi,
pas de la part de Rajoy. Et je me suis planté sur toute la ligne en me disant on a affaire à deux mous, deux faibles, deux qui vont jouer, etc. et qui vont faire que les deux choses durent longtemps. Eh bien là, on a l'accident, c'est-à-dire chacun dit à l'autre « sors d'ici, moi je vais faire un malheur ». Et le malheur, eh bien, ils l'ont réalisé aujourd'hui et... C'est pas pour ça qu'on va avoir une révolution d'octobre. Il y aura pas d'attaque du palais d'hiver. Hein.
Non, non.
On est au mois d'octobre et croyez-moi, commencer à dire bon, allez, je décrète l'indépendance. Ça c'est formidable. Mais attendez, il faut que les policiers marchent. Il faut qu'il y ait une minorité agissante. Il faut des forces de l'ordre. Il faut prendre la radio. Il faut prendre les banques. Il faut avoir avec soi les industriels. Donc ils ont ouvert la boîte aujourd'hui. Et pardonnez-moi de dire ça. Moi je pense qu'encore une fois les durs qui ont avancé, c'est les durs qui sont derrière Rajoy. Les durs qui ont avancé en Catalogne, ce sont les durs et les radicaux qui ont commencé à traiter Puigdemont de lâcheté.
Ça, c'est, vous êtes d'accord?
Oui, mais donc, c'est et on en est là aujourd'hui. C'est pas nous qui pouvons publiquement, c'est pas Macron et Merkel qui arrivent à Bruxelles et qui disent « Oh les cœurs, il faut empêcher ça ». Oui, il faut empêcher ça. Pour sauver l'Europe, il faut empêcher ça. On a eu le Brexit, ça suffit.
Bah, écoutez, ils ont tous pris position en disant notre seul interlocuteur, c'est Rajoy, point barre. Ça veut dire qu'on ne reconnaîtra jamais l'indépendance de la Catalogne.
La Catalogne ne sera pas dans l'Union européenne, puisque les traités sont faits avec les États, et en l'occurrence avec
Madrid. Mais ils ne l'auront pas, l'indépendance. C'est la révolution d'octobre.
Je vous en prie.
Oui, il n'y a pas de Lénine, il n'y a pas de Staline.
Pour le moment, c'est une vue de l'esprit. Et puis les Catalans ont beau être ceux qui veulent l'indépendance très déterminés, il ne va pas y avoir d'insurrection, Dieu merci, en Catalogne, les armes à la main pour défendre l'indépendance. On n'en est pas là, on ne va pas envoyer les chars de Madrid, on n'en est pas à ce degré conflictualité.
Il peut quand même, puisqu'ils sont 50-50 pro et anti-indépendantistes, ça peut tourner
ils
vinaigre,
vont avoir,
excusez-moi.
Il peut y avoir des affrontements violents avec des morts, ça c'est tout. C'est
et
tout
avec les policiers qui vont arriver de Madrid.
Mais une insurrection, non. C'est pas du tout le même degré de conflictualité que dans les années 30 ou en 34, quand ils ont fait déjà une tentative pour avoir...
Ils avaient essayé déjà une fois.
Leur indépendance dans le cadre d'un État fédéral. C'était quand même pas aussi prononcé qu'aujourd'hui. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a un fait, moi, qui m'a sauté aux yeux en allant en Catalogne, c'est l'utilisation politique de l'histoire en Catalogne. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de l'histoire catalane qui a été promue par les institutions de la Généralité jusque dans le musée d'histoire de la Catalogne que j'ai visité à Barcelone, et où il y a des épisodes qui sont présentés de façon extrêmement contestable. C'est une vision militante de l'histoire où la Catalogne est toujours victime de Madrid depuis le début du XVIIIe siècle. Et c'est enseigné comme aux élèves.
Ouais.
Et donc, c'est dramatique parce qu'il faut bien voir ça. C'est quasiment un État fédéral, l'Espagne. Ils n'aiment pas le mot. Mais dans les faits, ça fonctionne d'ores et déjà comme un État quasi fédéral. C'est pas du tout comme un conseil régional chez nous, la Catalogne.
Non, pas du tout, parce que les régions ont une autonomie extraordinaire.
C'est infiniment plus de pouvoir.
Avec les Basques encore un peu plus que les autres.
Voilà, ils ont un drapeau, des finances. Vous avez parlé de tout ça. Mais juste un exemple qui est quand même très significatif. Leur fête nationale, ce qu'ils appellent la fête nationale chez eux, chaque mois de septembre, vous voyez des gens, des gamins de 20 ans en jeans et baskets qui défilent pour commémorer quelque chose qui s'est passé en 1714, où Barcelone a été prise par les troupes espagnoles de Madrid et les troupes françaises du petit-fils de Louis XIV.
Ouais.
Nous, on a tous oublié ce qui s'est passé, pas eux. C'était après le traité d'Utrecht et la fin de la guerre de succession d'Espagne. Et aux yeux des indépendantistes, c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé avant, c'était le paradis perdu des libertés catalanes. Et après, c'est l'oppression de Madrid qui s'est abattue sur leur belle province. La guerre d'Espagne, on en fait une présentation extrêmement partielle et partiale pour les épisodes les plus douloureux, par exemple les règlements de compte internes au camp républicain à Barcelone. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une partie extrêmement passionnelle dans tout ça, nourrie par une utilisation politique de l'histoire qui a permis... paradoxalement, la constitution espagnole de 78 qui était faite pour pacifier les choses, comme elle a transféré l'enseignement de l'histoire à la Catalogne, elle a aussi donné une arme aux indépendantistes.
Dites encore un mot si vous avez envie, après tout ce qu'ils ont dit, peut-être.
Non, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on ne sait pas vers quoi on avance, des plus exaltés des Catalans et des indépendantistes qui vont maintenant attendre la réaction du pouvoir central concrètement, c'est-à-dire est-ce que effectivement la reprise en main de la police va être de va être lancé depuis Madrid. Enfin, jusqu'où cela va aller. Et je trouve, encore une fois, Yvan Levaille, évidemment, la diplomatie a fonctionné. Évidemment, Emmanuel Macron parle à Marianne Hora-Roy. Il n'empêche, je trouve l'Europe très spectatrice de ces mouvements régionalistes, de ces mouvements radicaux, très spectatrice. Et elle va petit à petit entrer dans une phase de déliquescence où il n'y a même plus de discours européen, il n'y a même plus de souffle européen pour s'opposer à ces nationalismes et ces régionalismes.
Et en ce sens,
je trouve que l'Europe est coupable.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, la Catalogne va avoir son indépendance?
Mais non, je dirais non.
Je dis non. Franchement, non,
moi
ça
aussi,
n'arrivera
je dis non.
Pas.
Non, mais il va y avoir des soubresauts terribles. Et ce pays qui est richissime, la Catalogne, c'est 20% du PIB espagnol, quand même, c'est pas rien. Ça va pas durer. Je vous signale quand même que le parquet général d'Espagne, donc à Madrid, va engager la semaine prochaine une procédure contre le président Puigdemont pour rébellion. Il va donc normalement être arrêté, entendu, et il risque 30 ans de tôle. Donc ça, je vous garantis que ça va mettre du piment sur les plaies, du côté de Barcelone.
C'est sûr.
19h39 exactement. On parle de la Guyane dans un instant, avec M. Macron qui a été fort mal reçu, donc il s'est énervé. Tiens, à tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Bernard Poiret.
Et avec Antonin André, Guillaume Perrault, Yvan Levaille et Romain Reiner, bien sûr. En Guyane, le président Macron est arrivé sous les huées. En gros, qu'est-ce que disaient les protestataires? Ils disaient, vous nous avez promis 1 milliard d'euros au printemps dernier, avant la présidentielle. On n'en a pas vu le premier euro, on s'est fait arnaquer, on est toujours les misérables de la République, on meurt de faim, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, etc., etc. Donc, est-ce que les dom-toms, et notamment les départements d'outre-mer, sont vraiment, ou en autre vue de l'esprit, les parents pauvres de la République? Qu'en disent les internautes, Romain?
Bien, c'est l'avis d'un certain nombre, en tout cas, Jean-Philippe le dit. Macron fait encore des promesses, comme pour Irma, où les habitants attendent toujours l'aide d'urgence. Pour Gérard, on ne peut toutefois pas tenir Emmanuel Macron pour seul responsable de l'abandon de l'État des DOP depuis tant d'années. Laurent rappelle que la solution en Outre-mer passe par le dialogue. Et Cyril, qui ne se définit pas comme un pro-Macron, trouve quand même que le président a livré un bon discours sur la Guyane aujourd'hui. Pour Nicole, Emmanuel Macron a un peu cherché l'affrontement auquel il a eu droit à son arrivée. Quand il balance qu'il n'est pas le Père Noël, dit-elle, il ne faut pas s'étonner de cet accueil. Et Eddy ironise, il faudra bien que Macron revienne en métropole, on verra bien ce que le peuple va lui réserver.
Bah attendez, il dit qu'il n'est pas le Père Noël et on lui crache dessus pour une fois qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez, j'ai rien à vous donner, j'ai pas un rond, je suis fauché. Bon bah voilà, c'est comme ça, en plus c'est pas vrai parce que le milliard, ils vont l'avoir. Bon, alors écoutez, est-ce qu'effectivement les départements d'outre-mer, Antonin André, sont les parents pauvres de la République ou pas?
Oui, évidemment, et Emmanuel Macron va parler résoudre, lui, avec son milliard, le problème structurel des départements d'outre-mer, où on a des revenus, le revenu médian, je crois, est 40% inférieur au revenu médian en métropole. Le chômage en Guyane atteint 40%, voire 50% chez les jeunes. C'est-à-dire que c'est un cycle en plus vicieux, puisque les jeunes ne se forment pas. Et quel est l'intérêt pour les jeunes de se former, puisqu'il y a 50% de chômage à l'arrivée? Donc on est vraiment dans un problème structurel qu'Emmanuel Macron à lui seul ne résoudra pas, et que tous les présidents qui se succèdent ne font que panser des plaies. C'est des cotères sur des jambes de bois, ces milliards.
On saupoudre de l'argent.
Voilà. Mais on ne règle pas le problème. Néanmoins, pour parler du rapport de Macron à ce problème structurel, comme tous les autres, il essaye de le penser avec quelques millions, quelques milliards, je trouve néanmoins que c'est un récidiviste sur la façon de prendre les problèmes. C'est-à-dire qu'arriver en Guyane en expliquant aux gens « je ne suis pas le Père Noël » comme si on s'adressait à des enfants de 5 ans, je trouve qu'une nouvelle fois, ce président démontre une forme d'arrogance, de maladresse, Non, mais c'est quand même important, si vous voulez, parce que un président de la République, il est censé quand même aussi avoir de l'empathie, aussi ressentir un petit peu ce que les gens vivent sur place. Et cette façon, cette entrée en matière, évidemment, est maladroite. Et on ne parle plus que de ça, au lieu de parler des problèmes structurels des dom-toms et de la Guyane en particulier.
Et vous, Yvan Levaille, enfin, j'ai pas tous les chiffres de ce qu'on injecte dans les dom-toms, mais je me dis, mais pourquoi ils seraient les parents pauvres? Est-ce qu'on donne 100 euros en Guyane, c'est moins efficace que donner 100 euros dans le Cantal? Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, je pose la question.
Non, ils c'est loin. Vous savez, on avait dit un jour que les dom-toms, c'était les confettis de la République. C'est des confettis qui coûtent très cher. D'abord parce qu'il n'y a pas de frontières. En Guyane, vous avez les gens du Suriname qui arrivent de tous les côtés, qui entrent et qui viennent parce que le niveau de vie est supérieur en Guyane à ce qui se passe tout autour.
Il coûte cher, mais il rapporte beaucoup d'argent à la République aussi, ces territoires.
Et ça rapporte aussi de l'argent.
Les zones économiques exclusives, maritimes, etc.
Bon. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que le général de Gaulle Dieu sait si c'était d'abord un vieux président et un grand président, et il était allé au Québec, au Canada par conséquent, la Fédération, et il avait crié
« Vive le Québec libre !»
Le Québec libre
à Montréal.
Bon, moi je trouve que Macron, en allant en Guyane, alors on peut dire que c'est une forme de provocation, il a été très courageux parce qu'il savait, et d'expérience là, parce qu'il y avait assisté, comme nous tous, ça allait mal en Guyane. Il y va, et il utilise une expression insupportable.
Que vous trouvez aussi foireuse.
Voilà, quand on vient, qu'on est président de la République, qu'on vient courageusement et qu'on dit « je suis pas le Père Noël », eh ben écoutez, faut penser à la manière dont ça s'est reçu. Parce que qu'il aille simplement dans des départements pauvres, qu'il aille le dire ici dans une entreprise où il y a...
Mais il a déjà dit, hein, « je suis pas le Père Noël ».
Non, mais il dit pas « je suis pas le Père Noël ». Non, non, non. Écoutez, je suis désolé. Je sais pas si ça fait plaisir. Non, demande autour de moi si ça fait plaisir à la droite d'entendre le président dire « je suis pas le Père Noël ». En tout cas, je peux vous dire une chose. On dit que la gauche est morte. Moi, je pense qu'elle n'est pas morte.
Elle pète le feu.
Comment ?
Elle pète le feu ?
Si on continue comme ça... Non, elle ne pète pas le feu. Mais vous allez être surpris parce que les gens de gauche sont encore là. Et il y a des phrases qu'un président de la République, intelligent, c'est ce
ne doit pas dire,
devrait s'épargner.
Guillaume Perrault.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation amour-haine des départements vis-à-vis de la métropole, qui ont toujours l'impression d'être oubliés, oui, et qu'on n'en fait pas assez pour eux. C'est très net en Martinique et en Guadeloupe, que je connais beaucoup mieux que la Guyane, pour y avoir été pour le Figaro plusieurs fois. Et ce qui me frappait, c'est qu'il y a d'un côté la CBI et de l'autre le cocktail Molotov, quasiment. Et en ça, ils sont des Français au carré, parce que c'est une attitude qu'on voit en métropole pour énormément de catégories, comme les agriculteurs qui sont d'un côté en train de réclamer et de l'autre.
C'est
une formule de Maurice Druon.
De Maurice Druon.
Absolument. Vous voyez que je la connais, l'origine, quand il était.
Qui passe très mal.
Qui passait très mal, mais je la trouve excellente.
La CBI, le cocktail Molotov.
La CBI d'une main et le cocktail Molotov de l'autre. Il parlait des milieux culturels quand il était ministre des Affaires culturelles sous Pompidou. D'accord. Donc vous voyez qu'il n'avait pas peur de la polémique. Mais il est vrai aussi que si on prend la Guyane, elle a les problèmes d'une société qui est insérée, qui est en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une criminalité très forte. C'est le territoire de France où il y a la criminalité. Voilà. Il y a le problème dramatique des orpailleurs illégaux, il y a des trafics de drogue, il y a l'immigration clandestine qui est massive. Je me souviens m'être penché sur le détail des votes aux élections présidentielles en 2002 en Guyane, et j'ai vu à ma grande stupéfaction qu'il y avait une tribu amérindienne qui avait voté Jean-Marie Le Pen. Massivement, en 2002, absolument. Parce que l'immigration clandestine qui arrive du Brésil, il y a 700 km de frontière entre la Guyane et le Brésil.
Ils sont totalement perforés.
Voilà, et ils n'en peuvent plus. Et dans les secteurs les plus denses, les plus proches de la frontière, la préfecture évalue à 20-25% d'étrangers en situation irrégulière parmi la population. Donc évidemment, ça crée des tensions énormes.
Et tout ça fait qu'ils sont plus malheureux qu'ici en métropole.
Non, mais il y a aussi le problème économique. Tout est plus cher. La vie est très chère là-bas. Oui. Parce que les marchés sont très étroits. Il n'y a que 260 000 habitants en Guyane. C'est encore moins que la Martinique et c'est beaucoup moins que la Guadeloupe. Il y a 400 000 habitants en Guadeloupe. C'est quand même un cran au-dessus. Et même en Guadeloupe-Martinique, on n'arrive pas à faire venir des boîtes privées pour, par exemple, pour la distribution, pour le commerce. Pourquoi ? Parce que les marchés sont tellement étroits qu'un opérateur privé n'a pas un intérêt économique à venir. Donc, ça renchérit. En plus, vous avez une fiscalité très bizarre qui s'appelle l'octroi de mer, qui finance les communes en Guyane. Et ça veut dire que quand vous faites venir un produit de Paris, vous avez une taxe spécifique que vous devez payer. Bon, bref, tout ça, c'est hérité de l'histoire.
Donc, ils ont raison de dire qu'ils sont les enfants pauvres de la République.
Il est évident qu'il y a des problèmes extrêmement lourds.
Structurel,
propre à ces départements d'outre-mer créés en 1946. Je dirais pas ça, la Polynésie, c'est encore un autre monde, c'est encore autre chose. La Réunion, ça me paraît moins dramatique comme situation. Mais, d'un autre côté, il est faux de prétendre qu'on a abandonné la Guyane.
Bah oui.
C'est exagéré.
Bah oui,
c'est
oui.
Très exagéré.
Bah.
Mais quand vous êtes... Mais c'est humain, je comprends le ressort psychologique. Vous êtes au bout du monde, vous êtes en Amérique du Sud, vous êtes français, vous avez l'impression qu'on parle jamais de vous et qu'on vous oublie. Vous gueulez, bon, ce sont des Français au carré.
Des Français au carré, les Guyanais.
Oui, l'outre-mer, c'est la France au carré. Bon, bah, c'est tous les problèmes français.
J'aime bien la formulation.
De façon
outrancière, par exemple, l'hypertrophie du secteur public. Voilà, c'est quelque chose.
Et ils sont protestataires. Tiens, on va faire un peu le troisième thème, d'ailleurs, assez brièvement, mais ça revient un peu à ça aussi. Est-ce que les fonctionnaires territoriaux, je ne parle pas des fonctionnaires nationaux, hein, les fonctionnaires territoriaux, les agents des mairies, des collectivités locales, des conseils généraux, etc., etc., travaillent suffisamment dans l'année? Apparemment pas, parce qu'on leur demande de travailler plus. Donc voilà, c'est tout le problème actuellement, 19h50.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Bernard Poirette.
Une enquête du journal Les Échos montre que normalement les fonctionnaires territoriaux devraient travailler par an 1607 heures. Selon les endroits où ils exercent et les structures où ils exercent, c'est entre 1547 et 1568 heures effectives. Donc du coup, on est en train de serrer les boulons partout et de leur demander de faire leur temps de 1607 heures et ils sont pas contents. Que disent les internautes, Romain Reiner, sur ce thème-là? Est-ce qu'ils bossent assez ou pas?
Je vais pas vous surprendre, la grande majorité des commentaires sur le sujet laissent entendre qu'ils travaillent trop peu. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas productifs, notamment en raison de leurs heures travaillées bien plus faibles que leurs heures de présence, dit un lecteur de RTL.fr. Pour Charles, il y a un problème de fond. Ça a l'air super d'être fonctionnaire, dit-il. Regardez à Paris, ils ont 11 semaines de vacances, ils sont 20% du temps en vacances. Mais j'ai trouvé un internaute qui vient voler au secours des agents de la fonction publique. On lit trop d'inepties sur les fonctionnaires, dit-il, à croire que les gens sont jaloux de leur sort, mais ils n'ont qu'à aller passer les concours eux aussi. Pourquoi ne le font-ils pas?
Oui, évidemment, on peut toujours essayer de devenir fonctionnaire. 45 secondes chacun. Vous, Guillaume Perrault, d'abord.
Les collectivités locales ont vécu des décennies de facilité, sans se poser trop de questions sur leur budget. Ils ont embauché à tour de bras. Il y a 1 700 000 agents de la fonction publique territoriale aujourd'hui, et il y a 2,5 millions de fonctionnaires de la fonction publique d'État. Et si vous regardez dans les dernières décennies, les collectivités locales ont beaucoup plus recruté que l'État. Vous allez me dire, c'est normal, c'est la décentralisation, il y a eu des transferts de charges. Mais ça n'explique pas l'ampleur des recrutements. Non, je crois que le fond de l'affaire, c'est que les finances locales, c'est un maquis inextricable, qu'on peut vous enfumer si on essaie avec des arguments techniques. C'est très difficile de savoir qui a tort, qui a raison entre l'État et les collectivités locales. Et qu'on demande aux agents territoriaux, comme à n'importe quel salarié du privé, aujourd'hui dans n'importe quelle boîte, de faire un effort et de travailler plus avec autant de moyens, aussi peu de moyens, voire moins, me paraît naturel.
Naturel.
Oui.
Antonin.
Alors moi, je relèverais surtout la désorganisation, en fait, plus que le temps de travail. En fait, je pense, pour rejoindre un peu ce que dit Guillaume, il y a une désorganisation, c'est-à-dire qu'il y a un millefeuille territorial, il y a des tâches qui sont faites par des agents municipaux, qui pourraient être faites par des agents départementaux. Enfin, on a aggravé les choses avec ce millefeuille territorial qui fait qu'effectivement on a recruté beaucoup et sans doute beaucoup trop, aussi parce que le système politique effectivement un peu clientéliste des maires, des présidents de département, des présidents de région, faisait que voilà, on embauchait les cousins, les amis, les amis de militants. Il y a sans doute un peu de ménage à faire dans tout cela, mais il faut aussi rappeler que ils sont aussi victimes de cette désorganisation, ces agents territoriaux qu'on montre du doigt souvent. Eux-mêmes sont parfois dans des conditions de travail qui ne sont pas aussi évidentes que le chiffre que l'on brandit en disant qu'ils travaillent moins que les autres. Leurs conditions de travail ne sont pas aussi douces qu'on pourrait le croire, et ce ne sont pas des gens qui se roulent les pouces pour autant. Je trouve un peu injuste le procès qu'il leur aurait fait ad nominem, mais je trouve que le système a perverti effectivement ce régime des fonctionnaires territoriaux.
Yvan Levaille, trois phrases.
Oui, je vais être très bref parce que je suis fatigué, moi. Je suis fatigué d'entendre taper sur les fonctionnaires globalement, comme ça.
Territoriaux ou nationaux.
Hein, et sans distinguer fonctionnaires et fonctionnaires. Hein. Alors, je vais simplement vous faire remarquer une chose. Il y a des petits fonctionnaires qui ont des petits salaires, qui en bavent, et il y a des moyens fonctionnaires pour lesquels ça va mieux, ils sont cadres. Et vous avez des hauts fonctionnaires, et curieusement, les Échos n'organisent jamais de sondage ou d'enquête pour demander comment ça va pour... Moi, je connais des hauts fonctionnaires à plus de 10 000 euros par mois, certains à 15 et certains même à 18 avec les avantages. Ça va ? Vous allez continuer longtemps à taper sur les fonctionnaires ?
Antonin André, Guillaume Perrault, Yvan Levaille, merci d'être venu à ce micro pour tenter de refaire le monde. Pas dans le temps, malheureusement, vous serez punis. Heureusement, vous avez amené du chocolat pour vous faire pardonner, Yvan Levaille. 19h57, une pause, le flash et le foot après.
Vous écoutez RTL.